Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Il y a beaucoup d'événements et d'échéances à voir et c'est avec vous, Arnaud Benedetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et vous signez un livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du Cerf. L'actualité politique est une nouvelle fois marquée par de possibles turpitudes sexuelles de la part de dirigeants de premier plan. Le ministre Damien Abad fait l'objet d'une nouvelle plainte et le tout nouveau président de la commission des finances à l'Assemblée nationale est également accusé de comportements inappropriés envers une femme. Écoutons ce que dit l'une et l'autre avec vous, Pierre-Olivier.
Face à la pression trop forte depuis quelques jours, Éric Coquerel réagit et se défend de toute agression sexuelle ce dimanche dans le JDD, puis ce midi chez nos confrères de BFM TV.
Je n'ai jamais eu de ma vie quelque chose qui pourrait s'apparenter à un comportement, que ce soit harcèlement, évidemment agression et viol, etc. C'est encore pire. Je n'ai jamais commis ces comportements.
Ce dimanche, pourtant, l'une de ses accusatrices, Sophie Tissier, qui fait état de comportements déplacés d'Éric Coquerel lors d'une soirée en 2014, a saisi le comité des violences sexuelles de LFI.
On est arrivé ensemble avec Sophie Tissier dans cette soirée. Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait s'apparenter à des gestes déplacés.
Jointe par RFI ce dimanche, Sophie Tissier maintient pourtant ses accusations contre Éric Coquerel.
Coquerel n'est pas blanc comme neige. Je ne l'accuse pas de choses qu'il n'a pas commis. Je ne dis pas que c'est un violeur, je ne dis pas que c'est un agresseur physique. Mais il a eu des comportements suffisamment déplacés et offensants pour moi me blesser. Voilà, sa tribune, c'est de la mauvaise foi. Lui, en son âme et conscience, il sait.
Éric Coquerel menace de porter plainte pour diffamation contre ses accusatrices, tout en ouvrant la porte à sa démission si une plainte étayée contre lui était portée devant la justice.
Pierre-Olivier de RFI. Arnaud Benedetti, concernant le personnel politique, il y avait eu les affaires de corruption, il y a eu des abus de biens sociaux. Maintenant, ce sont des scandales sexuels qui frappent donc la classe politique, ce qui entache encore plus l'image de probité des élus.
Oui, alors en fait, la société rattrape le politique comme c'est souvent le cas. On voit bien que la sensibilité sur ces questions a considérablement évolué en quelques années, notamment avec ce que l'on appelle la libération de la parole, et qu'un certain nombre d'hommes politiques sont, j'allais dire, rattrapés parfois par leur passé, quand bien même ce passé ne serait pas répréhensible pénalement. C'est peut-être le cas, c'est peut-être ce qui arrive aujourd'hui avec M. Coquerel. Enfin, rien ne nous permet véritablement de l'affirmer, pas plus que de le démentir, mais la réalité, c'est qu'en effet, aujourd'hui, ces questions sont à l'ordre du jour. Elles sont à l'ordre du jour et elles frappent quand même là, en l'occurrence, un courant politique qui était, d'une certaine manière, très en pointe sur ces questions-là. La France insoumise, qui, je le rappelle quand même, a décidé, par exemple, de retirer son investiture à l'un de ses candidats, il y a de cela maintenant plus d'un mois et demi, lorsque ce candidat était lui-même l'objet d'un certain nombre de signalements au sein même du parti. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui, aujourd'hui, devient de plus en plus, j'allais dire, saillant dans le débat public. En plus, pour ce qui concerne M. Coquerel, il y a un contexte qui est lié à la fois à son élection en tant que président de la commission des finances. C'est la raison pour laquelle il communique aujourd'hui dans le journal du dimanche, parce qu'il s'agit véritablement de solder pour lui ce sujet pour pouvoir tout simplement s'atteler à sa tâche. Et l'autre sujet, c'est bien évidemment la question qui se pose au gouvernement avec le maintien ou non de M. Abad.
En tout cas, les réactions sont nombreuses aujourd'hui sur cette nouvelle affaire. Écoutons-en quelques-unes. Alors, faut-il mettre en avant la présomption d'innocence ou y a-t-il un principe de responsabilité politique? La réponse du président du RN, Jordan Bardella, sur CNews ce matin.
Mais il y a surtout une lutte intraitable à avoir contre les violences faites aux femmes. Mais en l'occurrence, ici, je ne suis pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais on parle de rumeurs. On se prononcera s'il doit y avoir des plaintes. S'il y a une plainte, il y aura une enquête. Il bénéficiera dans le cadre du droit français de la présomption d'innocence. Et puis s'il y a plainte et une condamnation derrière, eh bien à ce moment-là, il sera condamné. Il devra en tirer toutes les conclusions. Mais je pense qu'il y a une indignation à géométrie variable de la part de la gauche notamment. Et notamment de la part de Mme Rousseau, qui il y a quelques jours a appelé à la démission avec force d'ailleurs du ministre Damien Abad. et qui voit pour le coup, à l'inverse, quand ça concerne quelqu'un de son camp, ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester en pause. Donc il y a toujours effectivement une gauche à géométrie variable.
La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui travaille déjà étroitement avec le président de la Commission des finances, a elle aussi été interrogée sur cette affaire par France 3.
Dans ces affaires-là, quelles qu'elles soient, il faut vraiment rappeler les principes qui sont les nôtres, qui sont les principes de notre République. Les victimes doivent pouvoir porter plainte et la précédente majorité a beaucoup fait pour la parole des femmes, pour que les commissariats soient mieux formés, plus ouverts, pour qu'il y ait des recueils de preuves facilités. Et donc, nous devons collectivement faire en sorte que la parole se libère et que les procédures soient respectées.
Procédures
et donc, il doit y
justice.
Avoir des procédures en justice.
Et
quand
uniquement
une femme
en justice.
Est victime, il faut l'encourager par tous les moyens à porter
juste,
plainte.
Il a raison de se défendre quand même comme ça sur la place publique, Éric Coquerel.
Ben je trouve triste qu'il ait eu besoin de le faire. Et il faut que absolument on raison garder tous collectivement. Il ne faut pas que la machine s'emballe autour de rumeurs.
Quant à François-Xavier Bellamy, il est membre de LR, député européen. Il était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 ce matin.
C'est terrible qu'on soit en permanence ramené à ces sujets dramatiques. Maintenant, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est quand même de voir à quel point on voit reculer peu à peu l'importance de cette institution essentielle qu'est la justice. Pendant un certain temps, on a dit que si quelqu'un était condamné, il ne pouvait pas prétendre à une fonction politique. Ensuite, on a dit que quand quelqu'un a été mis en examen, il ne pouvait pas prétendre à telle ou telle fonction politique. Et maintenant, c'est quand une plainte est déposée que le sujet commence à exister. Et on va encore plus loin avec l'idée que même sans aucune plainte, la simple rumeur devrait suffire à disqualifier quelqu'un. C'est extrêmement grave quand on prétend pouvoir court-circuiter la justice. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Quand j'entends Madame Rousseau dire « Ah non, mais avec Monsieur Coquerel, il n'y a aucun problème, mais avec Monsieur Abad, il y avait un problème », on se dit que, évidemment, cette jurisprudence est intenable.
À la différence, à l'exception de Sandrine Rousseau, on voit que le personnel politique fait corps derrière Éric Coquerel, Arnaud Benedetti. Est-ce qu'on peut parler d'une solidarité entre parlementaires et cela peut donner l'idée d'un microcosme qui se serrerait les coudes?
Oui, il faut voir. La réalité, c'est que ce que dit François-Xavier Bellamy, finalement, repose sur une réalité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qui devrait faire foi, dans une démocratie, c'est malgré tout la procédure judiciaire. Et c'est la procédure judiciaire qui devrait permettre d'abord d'établir un débat contradictoire et surtout, lorsqu'il y a plainte, de pouvoir éventuellement amener à des sanctions et à une réparation pour les victimes. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que on est dans une forme de loi du suspect. C'est-à-dire que avant que la justice soit saisie, il y a des rumeurs, il y a des débats dans l'espace médiatique et que tout cela est utilisé aussi politiquement pour déstabiliser des concurrents, tant à droite qu'à gauche. D'ailleurs, on voit bien que finalement, quelle que soit la personne qui est mise en cause, toutes les formations politiques d'une manière ou d'une autre vont utiliser ce type de phénomène pour affaiblir leurs concurrents. Donc il y a quand même malgré tout une forme de régression, j'allais dire, sur le plan de l'état des mœurs démocratiques qui est inquiétante. Ensuite, clairement, on voit bien que là, en ce qui concerne cette affaire, encore une fois, de M. Coquerel, c'est, et d'ailleurs de la même manière sur M. Abad, c'est de savoir si ça a un impact sur les opinions publiques. Ça, c'est un vrai sujet, parce que les politiques, c'est aussi la relation à l'opinion publique. Si j'en juge par la réélection de M. Abad dans sa circonscription, ça ne l'a pas en tout cas handicapé pour redevenir député, mais ça pourrait évidemment l'handicaper pour rester ministre.
Alors, des députés qui ont été élus voilà, près de 15 jours et qui ont commencé à travailler ou plutôt à se répartir le travail. Présidence de l'institution avec une femme, qui devient donc pour la première fois quatrième personnage de l'État. Questure, c'est-à-dire l'administration du Palais Bourbon. Commission, qui assure le travail de fond avant les votes. L'attribution de la présidence de la Commission des finances revient toujours à l'opposition. Alors la question était de savoir quelle opposition, puisqu'il y a l'Union de la gauche qui est majoritaire, mais c'est une alliance. Alors que si l'on raisonne en tant que parti, c'est le RN qui est la principale force. Et bien finalement, c'est LFI qui l'a emporté avec Éric Coquerel. Et pour l'occasion, ce fidèle Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a porté une cravate, d'où le mécontentement, pas sur la cravate, de Jordan Bardella, son président par intérim du Rassemblement National.
Il y a une tradition qui est inscrite dans le règlement intérieur de l'Assemblée qui dit que la présidence de la Commission des finances, parce qu'elle contrôle l'application du budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition. On s'est retrouvé devant la déchéance des Républicains. Les Républicains avait la possibilité de choisir entre un gaulliste présenté par le Rassemblement national, qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui un élu crédible du Rassemblement national. Ils ont préféré s'abstenir et choisir M. Coquerel. Donc c'est un axe LR, la France insoumise. C'est extrêmement étonnant. Je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leur propre élection.
Jordan Bardella du Rassemblement national, un parti qui obtient 2 vice-présidences de l'Assemblée. Arnaud Benedetti, qui va mener la danse de l'opposition ?
Il y a plusieurs oppositions, clairement, au sein de cette Assemblée. Des oppositions qui sont fortes si on les agrège, mais qui sont aussi faibles de leur division. Et c'est bien évidemment sur ces divisions de l'opposition qu'entend jouer Emmanuel Macron pour pouvoir stabiliser sa majorité. On voit bien en tout cas qu'il y a, si vous voulez, 2 approches différentes d'emblée entre les 2 principales forces politiques qui ont pénétré à l'Assemblée nationale à l'occasion de cette élection législative, la NUPES et puis surtout la France Insoumise, le groupe de la France Insoumise et le Rassemblement National. Une attitude qui est résolument intransigeante vis-à-vis de la majorité qui est celle quand même des députés de la France Insoumise qui campe une opposition assez radicale à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Et du côté du Rassemblement National, une stratégie, un registre qui est un peu différent, comme s'il s'agissait finalement de profiter de ce groupe parlementaire nouveau pour, si vous voulez, entretenir ce travail de normalisation du Rassemblement National. Et là, c'est très intéressant de voir que les positionnements sont finalement pour l'instant différent, mais on est vraiment dans le début, dans l'entame du match, comme on dit en rugby, et donc il faut attendre de voir comment la dynamique politique ensuite va saisir l'ensemble des groupes politiques.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
En ce moment même se décide qui entrera dans le nouveau gouvernement qu'Elisabeth Borne doit former. L'autre semaine, le président de la République parlait d'une équipe qui, hormis LFI et le RN, pourrait être ouverte de LR au PC. Alors qu'en dit le chef du Parti communiste, Fabien Roussel, sur France Info TV à la mi-journée ?
Je n'ai pas été contacté et je n'ai pas, à ma connaissance, appris que des communistes aient pu être contactés. Mais ça ne me surprend pas parce que j'ai clairement dit au président de la République, lors de l'entretien que nous avons eu, qu'il y avait un tel rejet de la politique qu'il mettait en œuvre, que je ne voyais pas de quelle manière il était possible pour des communistes de participer à un gouvernement qui mettrait en œuvre l'allongement du temps de travail, etc., etc. J'ai aussi dit, nous avons vocation à participer à des gouvernements, y compris d'Union nationale, mais avec un tout autre contenu que celui dont nous commençons à parler, c'est-à-dire avec un niveau d'investissement et un niveau d'ambition pour le pays.
Or, de là, précision, quand
on
même.
Est encore dans un gouvernement qui va défendre les intérêts des plus riches.
Maintenant, est-ce que des membres de LR pourraient rejoindre les rangs du gouvernement comme cela a déjà eu lieu par le passé ? Le sentiment du député de l'Aisne, Julien Dive, sur France Inter.
On a besoin de garder cette ligne claire si on veut préserver une droite républicaine forte dans l'hémicycle. Cette ligne claire, c'est celle d'être des opposants constructifs, qui ne sont pas dans l'opposition par obstruction, mais qui ne sont pas non plus dans la compromission. Donc c'est de pouvoir être force de proposition sur les textes. On a un texte qui arrive là sur le pouvoir d'achat, on a des exigences, on formule des propositions et je pense qu'on arrivera à converger sur un certain nombre de points. Mais très clairement, non, nous n'avons pas été approchés et j'espère que j'ai des collègues qui ne lâcheront pas.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Quelles sont les données de ce remaniement à
ton avis ? Il y en a plusieurs. D'abord, en effet, respecter la parité. On a 4 ministres femmes qui quittent le gouvernement. Les 3 ministres battus aux législatives, plus la présidente de l'Assemblée nationale, qui était ministre de l'Outre-mer. Ensuite, c'est les équilibres politiques. Est-ce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont essayer de pêcher à droite, si je puis dire, pour essayer de renforcer leur majorité ? On sait très bien qu'un certain nombre de personnalités des Républicains, qui ne sont pas parlementaires, prônent une convergence, en tout cas une logique de convergence avec la majorité relative. Je pense par exemple au président de la région Grand Est, M. Rodner ou M. Copé. Ensuite, on verra aussi ce que feront sur la gauche, disons, les artisans de cette composition gouvernementale. Est-ce qu'on va là aussi essayer de chercher du côté, disons, de députés de gauche qui n'ont pas adhéré au groupe constitutif de la NUPES pour essayer de constituer une majorité ? Tout ça reste, en tout cas, en l'état, à l'état de question.
Donc il y a le remaniement et derrière le discours de politique générale que prononcera la Première ministre devant les députés mercredi. Le Parti communiste ne se fait pas d'illusions, comme le déclarait tout à l'heure sur France Info TV. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste.
Il ne faut pas qu'elle mette à l'ordre du jour la réforme des retraites à 65 ans. Ça confirmera ce que les Français pensent de ce gouvernement, c'est qu'il en demande toujours plus aux travailleurs, aux Français, et pas aux plus riches. Mais je vais même vous donner un détail, c'est des détails qui comptent. Le plafonnement des chèques restaurant à 19 euros, et le fait qu'ils ne puissent plus les utiliser le week-end et pendant les vacances, c'est honteux. C'est toujours aux mêmes à qui on demande un effort. Pourquoi ils ne plafonnent pas les salaires des grands patrons? Pourquoi ils ne plafonnent pas les dividendes? On est en période de crise. C'est toujours aux salariés à qui on dit « Ben non, tes chèques vacances, tu ne pourras pas les utiliser. Serre-toi la ceinture. » C'est ça qui nous fout en rage. Qu'ils lâchent la pression, qu'ils donnent de l'air, qu'ils nous permettent de vivre dignement par notre travail. C'est tout ce que l'on demande. Donc la Première ministre, elle a intérêt à être ambitieuse et à lâcher du lest. Oui. Si elle veut que dans notre pays et à l'Assemblée nationale, eh bien nous soyons dans un échange constructif et positif. Mais si elle maintient sa ligne, je suis désolé, nous voterons contre.
Voilà pour le PC, on verra ce que fera pour sa part LFI, LFI dirigée par Jean-Luc Mélenchon. Aurélien Devernois, le leader de la NUP, a pris du recul et laisse planer le doute sur ses intentions et son avenir.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il compte faire. Quand on interroge des proches de Jean-Luc Mélenchon ou ses nouveaux alliés au sein de l'Union de la Gauche, c'est la phrase qui revient systématiquement. Il faut dire que l'Insoumis a mis un soin particulier à brouiller les pistes, un discours d'adieu au soir du premier tour de la présidentielle, puis un retour en force quelques jours plus tard avec le souhait de devenir Premier ministre. Il renonce ensuite à être député, pour prendre de la hauteur, tout en promettant de rester au premier rang du combat politique, mais seulement si on veut bien de lui. De quoi dérouter même le plus fin des mélenchonistes. Il a surtout besoin de digérer tout ce qu'il vient de se passer, hasarde un dirigeant écologiste. Avec l'Union de la Gauche, Jean-Luc Mélenchon a surtout perdu la toute-puissance qu'il pouvait avoir au sein de la seule France insoumise. Preuve en est le couac de son appel à former un groupe unique à l'Assemblée nationale, aussitôt retoqué par ses alliés, le forçant à s'excuser de son initiative.
Et une étude d'opinion Kantar atteste que sa cote de confiance recule légèrement, 23%, moins 2%. Alors, si Emmanuel Macron se retrouve dans une situation de blocage politique, ce serait Mélenchon, Premier ministre, saison 2, Aurélien Devernois ?
C'est une hypothèse retenue par plusieurs des membres de la NUPES avec qui j'ai pu discuter. Jean-Luc Mélenchon se reposerait tout en fourbissant ses arguments et sa stratégie en cas de retour aux urnes. Si Macron dissout dans l'année qui vient, il sera évidemment le seul recours, analyse un député insoumis. Pas question donc de se disperser d'ici là. Et si finalement l'Assemblée trouve un moyen de fonctionner correctement, il passera la main, se consacrant par exemple à sa fondation politique, à moins évidemment que la bataille annoncée au sein de la NUPES pour la présidentielle 2027 ne le force à sortir de sa retraite pour sauver la gauche. À 75 ans, il serait toujours plus jeune que Joe Biden lors de sa victoire à la présidentielle américaine, sourit-on dans les rangs insoumis. Jean-Luc Mélenchon l'a de toute façon promis, il fera de la politique jusqu'à son dernier souffle.
Oui, la politique, on n'est jamais mort en politique. Arnaud Benedetti.
Non, on n'est jamais mort et beaucoup de destins politiques nous le démontrent. Rappelons que François Mitterrand, avant d'être élu, a subi plusieurs échecs à l'élection présidentielle en 65, 74 et finalement en 1981. Il est parvenu à se faire élire.
Et Jean-Luc Mélenchon, sur sa discrétion du moment ?
Sa discrétion du moment, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'est plus député. Vous savez, quand vous n'avez plus de mandat électoral, c'est plus difficile d'exister politiquement. Il a une nouvelle génération, d'ailleurs, à laquelle il a largement mis le pied à l'étrier, qui est en train d'apparaître sur la scène politique, et notamment au Parlement. Il faut à la fois qu'il soit dedans, mais en dehors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il donne le sentiment d'être, sans être député, encore trop à la manœuvre, parce que il faut aussi laisser d'une certaine manière l'autonomie à ces jeunes dirigeants politiques pour qu'ils puissent mener les combats qui leur semblent les combats qu'ils doivent mener.
Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur de « Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf. Allez, en 30 secondes, de quoi s'agit-il ? Ça intrigue, ce titre.
Écoutez, c'est surtout le fait que dans une société comme la société française, qui est une société très politique, il y a un phénomène de défiance qui s'est profondément développé depuis maintenant plusieurs décennies dans la politique et dans la classe politique. Et c'est ce phénomène de défiance que j'essaye de décrypter dans cet ouvrage.
Et qu'on retrouve finalement dans le journal Libération de ce week-end avec un article intitulé « Les Français au bout du rouleau démocratique » qui s'appuie sur un sondage via Voice. Cette enquête montre que les élections sont loin d'avoir apaisé les tensions sociales et politiques. Elle confirme un sentiment d'amertume et d'insatisfaction pour presque la moitié des personnes interrogées. Elles font part de leur déception concernant la vie politique. Merci pour vos analyses et commentaires, Arnaud Benedetti.
Merci à vous.
Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.